La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.
Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Encore merci pour vos témoignages et vos messages de sympathie autour de nos dernières émissions sur l'Église verte. On a eu beaucoup de retours qui ont été très appréciés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un nouvel invité quoi, que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de Pascal, que vous avez déjà entendu, et qui est ambassadeur Église verte.
On n'a pas le label Église verte encore, j'espère qu'on l'aura un jour et qu'on va s'engager là-dedans. Moi, je suis animateur du mouvement Laudato Si et bien sûr proche d'Église verte, hein, mais on n'est pas Église verte encore. On a mené, ceci dit, beaucoup d'actions tout au long de l'année 2023, des actions qui peuvent parfois paraître plutôt insignifiantes, mais qui ont toute leur importance. Parce que c'est souvent par des petites choses hein, qu'il faut commencer. Et j'en avais parlé aussi là, lors de cette émission, lors d'un précédent numéro. On a eu une belle mobilisation, une belle action qui a été menée lors du temps pour la création. J'en avais parlé sur la plage de la. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de choses durant cette année 2023. Et pour 2024, eh ben, oui, il y aura des occasions encore qui se présenteront pour faire de nouvelles actions en faveur de l'écologie intégrale, hein, bien sûr. Je pense peut-être essayer de, puisque je suis dans l'une, dans le, je suis dans le, comment appelle-t-on ça déjà, le groupe paroissial, là, disons l'assemblée, là, le nom m'échappe, mais enfin dans l'unité quoi, de les paroissiens qui se réunissent pour voir les actions que doit prendre l'unité paroissiale. Et je pense demander à ce qu'on puisse faire quelque chose peut-être pour le mois d'avril, puisqu'il y a le 22 avril tous les ans, ça tombe, hein, la journée de la Terre. Et dans plusieurs endroits, je sais qu'ils font certaines choses à cette occasion. Donc, pourquoi ne pas nous joindre à cet événement international? Et puis, bien sûr, il y aura aussi au mois de mai la semaine Laudato aussi, qu'il faudra bien sûr honorer et essayer bah, de faire que la paroisse. Nous, on a deux paroisses dans l'unité. La paroisse reste vraiment sur le chemin du développement durable, mieux gérer ce qu'elle produit comme déchets, etc.
Très bien. Moi, je rencontre donc à l'évêché, on a aussi un projet. Alors, c'est vrai que Église verte, je t'invite à inscrire ta paroisse puisque le premier degré de l'Église verte, c'est juste dire qu'on a la volonté d'y aller. Donc, voilà. Et c'est ce qui est bien dans l'Église verte, c'est que le niveau 1, c'est on en a parlé et on a envie d'y aller. Et donc, ça, je trouve ça très bien, qui est ce niveau 1. Donc, on n'a pas d'action concrète mise en place, mais on a montré notre envie d'y aller. Donc, ça s'appelle Graines de Sénévé. Donc, c'est le niveau 1. Donc, c'est très, très bien. Donc, voilà. Nous, on en est là dans notre paroisse. J'invite tous nos auditeurs à en parler dans leur paroisse et au moins de matérialiser et s'inscrire. Hein. Donc, c'est sur le site de Église Verte, hein, donc égliseverte.org. Et vous pouvez, une fois que vous êtes mis d'accord sur le fait que on va engager une démarche, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous pouvez inscrire votre démarche et du coup, vous serez sur le site Église Verte au niveau 1. On a la volonté de faire quelque chose. Donc, vous verrez après, il y a 6 niveaux jusqu'au label et certification. Mais niveau 1, c'est on a l'intention d'y aller. Donc, ça, c'est très, très bien et j'espère que... Pascal, dès votre prochaine réunion de paroisse, il y aura...
L'équipe pastorale, le nom m'est revenu, c'est l'équipe pastorale.
Voilà, une fois que votre équipe pastorale sera réunie, vous pourrez accéder au niveau 1. On a envie d'y aller, inscrivons-nous et après, on verra quelles actions on peut mettre en place. Est-ce que Pascal, vous, dans votre paroisse, il y a eu une réflexion autour de l'énergie ?
Bah, autour de l'énergie, pas spécialement, mais c'est quand même un sujet qui mériterait qu'on le regarde plus attentivement. Il y a un chauffage hein, qui est quand même réalisé l'hiver, oui. Je ne pense pas, hein, malgré tout, que ce soit trop problématique hein, au niveau de la perdition de chaleur. À ce niveau-là, je ne pense pas. Ce n'est pas chauffé très longtemps à l'avance non plus. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de gaspillage, en tout cas. Et quand même, on ressent la chaleur, donc c'est déjà pas mal. Mais je crois que chez nous, c'est peut-être au niveau de la gestion des déchets, notamment lorsqu'il y a des événements, des choses comme ça, qu'il faut qu'on soit vraiment très vigilant, parce que on réussit à le faire, mais pas toujours. Et c'est vrai que des fois, quand certaines personnes manquent à l'appel, et ben bon, les mauvaises habitudes ont tendance à reprendre. Donc, bien sûr, on va regarder ce problème de l'énergie et puis on va essayer de voir globalement pour faire au mieux les choses, tous les domaines.
Oui, alors moi, étant donné que bon, tu sais que c'est mon métier dans le secteur de l'hôtelier, dans l'autre de l'hôtellerie, et nous, on a constaté dans le secteur de l'hôtellerie, et je pense que une église est comparable puisque c'est un établissement qui accueille du public, et le premier pôle énergétique et économique dans un hôtel, c'est le pôle énergie. Donc c'est pour ça que moi, nous, en tout cas, notre démarche, on va beaucoup travailler là-dessus. Et sur des questions très simples, hein, quelle est la paroisse ou quelle est l'église qu'on va ouvrir en fonction du nombre de personnes qu'on aura qui viendront à la messe, et plutôt une église plutôt qu'une autre, et de vraiment se poser la question. J'ai fait des retraites spirituelles silencieuses dans des monastères où je voyais les moines se réunir à 5 dans des églises qui peuvent accueillir 200 personnes. Donc très difficile de chauffer. Et moi, j'aurais, bon, après, bien évidemment, en tant que professionnel du secteur, ben, même si j'étais là pour prier, je me posais ces questions-là. Je disais, mais est-ce que c'est le meilleur lieu actuellement? En hiver, puisque donc dans ce cas-là, c'était en rez-de-jardin. Donc, bien évidemment, les pièces qui sont au sol sont toujours plus froides que celles qui sont à l'étage. Donc, puisque bien évidemment, les pièces à l'étage bénéficient de l'isolation des pièces du rez-de-jardin. Et donc, je me posais vraiment la question, est-ce que c'est le meilleur endroit pour célébrer en hiver? Et donc, moi, en tout cas, nous, on va se poser la question dans notre paroisse, quelle est, puisqu'on a plusieurs églises à quelques kilomètres les unes des autres, on a cette chance-là, quelle est l'église qui doit être ouverte en hiver, quelle est celle qui doit être ouverte en été. Bien évidemment, après, il faut tenir compte du transport de nos paroissiens. Donc, on va commencer, en tout cas, moi, je vais inciter vraiment à commencer sur l'énergie, parce que eh ben c'est un impact environnemental qui est le plus important, hein, l'énergie, et qui, bien évidemment, en termes de coût, c'est énorme. Donc, alors, quand on parle d'une église qui est fréquentée que le temps des messes, ben, donc là, c'est qu'un temps limité. Mais quand on parle d'un couvent ou d'un monastère où il y a des résidents, donc là, il y a une vraie réflexion qui doit être menée pour être le plus confortable possible, mais sans gaspillage. Et le lieu est très important. L'exposition, se protéger du chaud, se protéger du froid. Et donc, il y a une vraie réflexion thermique et économique, hein, puisque donc nous, on l'a mesuré, hein, dans l'hôtellerie. Donc, en 3 ans, le prix du kilowattheure a été multiplié par 3. Donc, tous les hôtels avec lesquels je travaille, et heureusement, c'est un peu notre fierté, on a tous diminué nos consommations en kilowattheure de 20%, mais par contre, on a quasiment doublé le coût de l'énergie en 3 ans, puisque le prix du kilowattheure a été multiplié par 3. Et donc, heureusement qu'avec la mise en place de bonnes pratiques, on a pu diminuer nos consommations en kilowattheure de 20%, mais comme le prix a été multiplié par 3, ben, on consomme 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc, on en utilise 20% de moins, mais ça nous coûte 2 fois plus cher. Donc, c'est un vrai débat, et moi, j'inciterais beaucoup à commencer les démarches par ce point-là qui est fondamental et qui est très important, et tel que aussi, bien évidemment, chauffer les églises en fonction du volume de l'église, et si possible, une fois que l'église est chauffée, que bien évidemment la chaleur humaine est très importante, et on le fait dans les hôtels, hein. C'est-à-dire que quand on a une salle de séminaire qui est vide, on met 19 degrés en température de consigne, mais une fois que toutes les personnes sont là, quand on a 30 ou 40 personnes dans la même salle, très rapidement, il y fait naturellement bon. Et donc, on baisse à ce moment-là le chauffage. Et je pense que nous-mêmes, au sein de nos églises qui accueillons du public, on doit prendre en considération, puisque nous, on le fait aussi dans les restaurants. Donc, avant, un restaurateur avait comme fonction de s'assurer que ses clients aient un plat conforme à sa commande et de qualité gustative la plus élevée possible. Et aujourd'hui, ça fait partie du métier de restaurateur de gérer la température de sa salle. C'est-à-dire que s'il a un ratio qui est bien en termes d'économie, mais que les gains économiques sont perdus par des pertes énergétiques, son ratio diminue. Et donc avant, on n'en parlait pas du tout. C'est-à-dire qu'un chef de restaurant, la partie énergétique, c'était pas son souci. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. Et d'ailleurs, nous, dans l'hôtellerie, quand on dit une viande qui a été cuite pendant 8 heures à feu doux, bien évidemment, aujourd'hui, nous, un, on évite les viandes, et deux, on évite les cuissons lentes pendant 8 heures, parce qu'avant, on ne rajoutait pas ce coût énergétique dans le ratio du plat. Aujourd'hui, étant donné le prix de l'énergie, on rajoute cette dimension-là. Et on en tient compte. Donc voilà, moi j'inciterai bien évidemment à travailler en commençant par ce pôle énergie qui est très très important. Donc souvent quand on parle développement durable, quand on parle d'écologie, on a tendance à parler déchets, mais il faut savoir que l'impact le plus important et le coût le plus important, c'est sur l'énergie. Donc j'invite tous ceux qui mettront une démarche en place de bien commencer par l'énergie et essayer de trouver ensemble, et c'est possible, hein, des palliatifs. Donc nous, on avait, tiens, ce matin, nous, dans ma paroisse, j'avais un exemple. Bon, j'étais pas là pour ça, donc bien évidemment, je suis pas intervenu, mais on avait le chauffage à fond, et pour montrer que l'église était ouverte, on avait les portes de l'église qui étaient grandes ouvertes. Donc chauffage à fond, église et portes ouvertes, on peut pas. On ne peut pas faire ça. Donc aujourd'hui, il faut tous qu'on soit conscients. Et à partir du moment où on met du chauffage quelque chose, bien évidemment, les portes sont fermées. Alors après, il faut y réfléchir, parce qu'on veut aussi dire à nos paroissiens, vous êtes les bienvenus et les portes sont ouvertes. Donc quitte à mettre un grand écriteau, bienvenue à la messe actuellement. Mais on ne peut pas, et vraiment, moi, j'insisterai à ma paroisse, et puis j'insisterai aux autres paroisses. On ne peut pas laisser des portes ouvertes avec le chauffage à fond sous prétexte de dire l'église est ouverte. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'on trouve des palliatifs pour avertir qu'il y a une messe, que tout le monde est bienvenu, mais on ne peut pas laisser les portes ouvertes pour dire. Et d'ailleurs, l'hiver dernier, cette pratique-là a été interdite dans les magasins. Donc, dans les magasins des centres-villes, il est interdit de laisser les portes ouvertes avec le chauffage, juste pour montrer que le magasin est ouvert. C'est interdit de faire ça. Donc, et c'est bien d'ailleurs que ce soit interdit. Bon, ça paraît logique, mais c'est vrai aussi que pour montrer qu'un magasin est ouvert, on a tendance à laisser les portes ouvertes. Et nous, c'était le cas ce matin. Pour montrer que l'église est ouverte, on laissait les portes ouvertes avec le chauffage à fond, et on peut plus faire ça. On doit y veiller, on doit faire attention. C'est des comportements qu'on doit bannir. C'est pas possible de faire. Moi, c'était encore ce matin à 11 h, donc il y a du travail, mais il faut vraiment qu'on soit tous sensibles sur ces questions-là. Donc vous avez des actions dans ce sens, Pascal, dans votre paroisse?
Ben, au niveau de l'énergie, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on a regardé prioritairement, mais c'est vrai que bon, nous, on a pas le problème de chauffer les églises en continu, hein, c'est vraiment uniquement lors des célébrations. Et bon, on fait vraiment pas d'excès là-dessus. Donc, mais il est évident au niveau du coût que oui, certainement, ça doit représenter quelque chose de conséquent. Mais je pense qu'on peut s'en rendre compte déjà à titre personnel, hein, lorsque on regarde notre propre foyer. Bon, moi, je sais que j'ai réussi à réduire ma consommation d'électricité et pourtant, eh ben oui, moi aussi, j'ai eu une petite régularisation d'EDF qui a dit que je devais encore un peu d'argent malgré ma réduction de consommation, donc, qui est quand même déjà très basse, hein, puisque pour la petite anecdote, on m'a dit que je consommais 60% de moins que les gens enfin, qui ont le même logement que moi. Donc, bon,
Ah.
Mais voilà, j'ai dû quand même payer en plus, puisque forcément, on ressent l'inflation au niveau de l'énergie, même dans nos foyers, hein. Donc oui, c'est sûr qu'on pourra certainement, dans la paroisse, si on s'y penche, trouver des marges de progression, ça c'est sûr. Mais bon, très franchement, on est quand même déjà, je pense, bien, parce qu'on chauffe pas plus que ça. Et l'été, pareil, la clim n'est pas très, très utilisée, hein. En dehors des célébrations, elle l'est absolument jamais. Donc ça, c'est déjà pas mal.
Alors, il y a un outil qu'on utilisera et que moi j'inciterai nos auditeurs et puis ceux qui mettront en place une démarche de le faire, c'est le principe de mesurer pour progresser. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, tiens, quand je célèbre une messe, quelle est la quantité de kilowattheures utilisée pour cette messe? Donc, combien j'ai eu de paroissiens et combien j'ai utilisé de kilowattheures? Et moi, j'aimerais que petit à petit, tous ensemble, on ait un ordre d'idées. Tiens, une messe confortable sans gaspillage, ça représente une messe, c'est à peu près 1 heure, hein, je pense que c'est partout pareil. Combien de kilowattheures on a consommé? Et je pense que quand on aura chacun cette notion de dire, ah ben tiens, moi, une messe, c'est tant de kilowattheures. Et toi, c'est combien? Et bien là, on aura, parce qu'aujourd'hui, on pense tous faire le maximum, mais en fonction de l'équipement de chauffage qu'on utilise, on va utiliser plus de kilowattheures ou moins ou combien de temps avant. Et je pense que quand on aura tous cette notion-là, pour une messe, c'est ça à peu près de kilowattheures. Moi, je vais vous donner un exemple dans l'hôtellerie. On sait qu'on utilise en moyenne 20 kilowattheures par nuitée par personne. Quand une personne passe une nuit dans un hôtel, par nuit, par personne, on dépense 20 kilowattheures. Bon, mais c'est intéressant de savoir, nous, par paroissien, en 1 heure, bah, petit à petit, bien évidemment, ça va être la révolution, ce n'est pas des notions qu'on avait jusqu'à présent, mais de dire combien on a utilisé de kilowattheures et combien on avait de paroissiens. Et ça sera très intéressant de commencer par ça. Du coup, comme on le dit, hein, nous, bon, je le dis en permanence en formation, mesurer pour progresser. Quand on aura ces indicateurs-là, et puis ça sera intéressant de se comparer les uns les autres et se dire, ah, bah, tiens, j'avais l'impression de faire des économies. Mais vu les équipements de chauffage que j'utilise, qui sont très énergivores, parce que nous, à la paroisse où je suis, on a quatre, ce qu'on appelle des grille-pains, on en a quatre, et qui fonctionnent à fond toute la durée de la messe. Et comme ils sont placés à 2 mètres de haut, donc la chaleur sort de cet équipement et va directement au plafond qui est très haut. Et donc les 3/4 de la chaleur qu'on a, en vérité, elle va se coller au plafond. Et comme le plafond est très mal isolé, bah, la chaleur s'en va et tout de suite par le plafond. Donc, ça sera intéressant. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de mesure, on peut pas savoir si on est économe ou pas. Donc, ça sera un peu la révolution, mais on va essayer de mettre ces notions-là en place tranquillement, mais au sein de nos paroisses. Et on rappelle que ben, l'écologie intégrale, c'est une approche qui est autant sociale qu'écologique. Donc, vraiment, l'écologie intégrale, c'est vraiment un moment de fraternité, de partage. Et cette fraternité et ce partage est à mettre à la même hauteur que l'efficacité des actions qu'on va mettre en place. Et c'est toute l'originalité et le cœur qu'on y met dans une démarche chrétienne, développement durable. Et c'est le cœur qu'on va y mettre tous ensemble. Et ces temps de partage sont très importants. En tout cas, merci beaucoup, Pascal, et encore une excellente année.
Merci, merci,
Merci
bonne année à
beaucoup.
vous.
La vie avant tout, une chronique d'écologie intégrale en compagnie de Dominique Vachald et de ses invités.